VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mercredi 25 mai 2022. Et avec vous, Eric Manvakidza, voici d'abord le sommaire. Les États-Unis sous le choc après une nouvelle fusillade qui a tué 19 enfants et 12 enseignants et 2 enseignants dans une école primaire du Texas.
Ça fait partie même du quotidien américain. La semaine dernière, il y avait le massacre à Buffalo et hier, c'était au Texas. La semaine prochaine, ce sera ailleurs.
En Gambie, le gouvernement est prêt à faire juger l'ex-président Yahya Jammeh, toujours en exil en Guinée équatoriale. C'est la journée mondiale de l'Afrique ou African Day.
Alors que nous continuons en tant que panafricanistes à nous dire, nous voulons nous unir, nous continuons à nous rappeler du slogan de Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir.
Vous en saurez davantage avec Mamadou Mignia Diouf, sociologue et panafricaniste. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Hier, à la mi-journée, la terreur s'est abattue sur la petite ville d'Uvalde au Texas, où un jeune homme de 18 ans a tué 19 élèves et 2 enseignants dans une école primaire. Les précisions avec Nathalie Barge.
L'ancien lycéen a d'abord visé sa grand-mère, la blessant grièvement, et s'est ensuite rendu à l'école primaire Rob. Il est entré dans une classe, a ouvert le feu, tuant 19 élèves âgés d'à peine une dizaine d'années et 2 enseignants avant d'être abattus par la police. Une douzaine d'enfants ont aussi été blessés par le jeune homme, identifié comme Salvador Ramos, qui portait une tenue paramilitaire. Il s'était récemment acheté 2 fusils d'assaut le jour de son anniversaire. Plus de 500 enfants, dont près de 90% d'origine hispanique, étudient à l'école Rob d'Uvalde, à une heure de la frontière mexicaine. Il est temps de transformer la douleur en action, a réagi le président Joe Biden, très ému, dans une allocution à la Maison-Blanche. Se disant écœuré et fatigué face à la litanie des fusillades en milieu scolaire, il a laissé entendre qu'il était temps d'affronter le lobby des armes. Les écoles américaines sont régulièrement frappées par des fusillades. En 2012, à l'école primaire de Sandy Hook, dans le Connecticut, un jeune de 20 ans avait tué 26 personnes, dont 20 petits-enfants, avant de se suicider.
Cette fusillade dans une école primaire du Texas a soulevé une vague d'émotions aux États-Unis et dans le monde. Le point avec Jean-Roger Bion.
En appui au président américain, la vice-présidente Kamala Harris a lancé « Nous devons trouver le courage d'agir », s'adressant à un congrès impuissant ou réticent à légiférer malgré la litanie de massacres. Depuis l'hémicycle du Sénat américain, le sénateur Chris Murphy a fustigé que de tels événements, cela ne se passe nulle part ailleurs qu'ici, aux États-Unis, et c'est un choix. La chef des démocrates au congrès, Nancy Pelosi, a parlé d'un acte monstrueux qui a volé l'avenir de chers enfants dans un communiqué. À l'étranger, le pape François a dit avoir le cœur brisé par ce drame. Il est temps de dire « ça suffit au trafic incontrôlé des armes », a martelé le souverain pontife. Le président français Emmanuel Macron dit sur Twitter partager le choc et la peine du peuple américain, la colère de ceux qui luttent pour mettre fin aux violences. Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky a présenté ses condoléances aux victimes et déploré qu'il y ait des victimes de tireurs en temps de paix. La Maison-Blanche a ordonné la mise en berne des drapeaux dans tous les bâtiments publics pour honorer les victimes d'Uvalde.
Les écoles américaines ont particulièrement été vulnérables aux fusillades à répétition. Abdelrahman Dia a joint Jean-Germain Gros, professeur à l'université de Saint-Louis dans le Missouri.
C'est une tragédie, mais une tragédie tout à fait prévisible. C'est presque routine. Ce qui s'est passé au Texas hier, ça fait partie même du quotidien américain. La semaine dernière, il y avait le massacre à Buffalo et hier, c'était au Texas. La semaine prochaine, ce sera ailleurs. Donc, c'est une tragédie, mais une tragédie tout à fait prévisible parce que ça fait partie, malheureusement, du quotidien américain.
Alors, il y a beaucoup de fusillades, plus de 200 déjà aux États-Unis cette année. Mais pour ce qui est des écoles, on a vu qu'après Uvalde hier, avant cela, on avait Sandy Hook. Les écoles sont-elles particulièrement vulnérables, difficiles à protéger?
Oui, bien sûr, parce que les écoles, n'est-ce pas, doivent être accessibles à tout le monde. On ne peut pas transformer les écoles en prison. On ne peut pas mettre des flics ou bien des policiers partout.
Jean-Germain Gros, professeur à l'Université du Missouri, que vous pouvez retrouver dans la partie magazine pour une analyse sur les fusillades aux États-Unis.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement gambien s'est dit prêt mercredi à faire juger en Gambie même l'ancien président Yahya Jammeh et des dizaines de personnes accusées de plusieurs crimes pendant ses plus de 20 ans à la tête du pays. Le point avec Rosine Munezero.
Le gouvernement gambien a accepté de poursuivre 70 personnes citées dans un rapport produit par une commission chargée de faire la lumière sur les crimes pendant cette période. Cela concerne l'ancien président Yahya Jammeh, a indiqué le ministre gambien de la justice Daouda Diallo dans un communiqué. M. Jammeh, 57 ans, vit en exil en Guinée équatoriale depuis qu'il a perdu le pouvoir et il n'y a aucun accord d'extradition entre Banjul et Malabo. Le ministre gambien de la justice a toutefois déclaré lors d'une cérémonie devant les organisations de victimes et les acteurs politiques qu'ils ne sont pas disposés à laisser l'impunité encourager les auteurs de crimes. Il a également annoncé la création d'un parquet spécial chargé des poursuites et l'intention du gouvernement d'instituer un tribunal au sein du système existant. Il a aussi précisé que cette cour qui sera établie en Gambie pourra également tenir des audiences à l'étranger.
L'attaque de dimanche dernier dans le nord du Burkina Faso a fait 63 morts, selon des témoins joints par VOA Afrique. Mardi, le gouverneur de la région avait parlé de 11 civils, dont 3 supplétifs de l'armée tués dans cette attaque de djihadistes présumés contre 2 villages. Selon des témoins, les forces de sécurité basées à 20 km ne sont intervenues que le lendemain de l'attaque des villages de Tiekeladji et de Demniol dans le département de Gorgadji de la province du Sénou dans la région du Sahel. Toujours au Burkina Faso, 2 personnes sont mortes dans des heurts à Houndé, dans l'ouest du pays, entre les forces de l'ordre et des orpailleurs en colère après l'interpellation de 12 de leurs camarades ayant participé la semaine dernière au saccage d'une importante mine d'or, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement. Au Tchad, des affrontements ont opposé lundi des orpailleurs arabes venus de Libye et d'Etama, une communauté originaire de l'est du Tchad. Selon un communiqué du ministre de la Communication, ces heurts se sont soldés par des pertes en vies humaines et plusieurs blessés, y affirmait-il. Au moins 1 ou 2 morts, mais sans certitude, a dit le ministre. Et dans l'est de la RDC, de nouveaux affrontements ont eu lieu mercredi sur plusieurs fronts dans la province du Nord Kivu, provoquant des déplacements continus de population. Les combats ont eu lieu vers Kiwumba, dans le territoire de Nyiragongo, à une 20aine de kilomètres au nord de Goma. Ils ont entraîné la coupure de la route nationale 4, vitale pour l'approvisionnement de la ville d'environ 1 million d'habitants. Ailleurs dans le monde, l'armée russe continue de progresser dans l'est de l'Ukraine où Kiev admet que la situation est extrêmement difficile pour ses troupes. Moscou évoque une offensive longue et tente de consolider son emprise sur les territoires conquis au sud. Les forces russes intensifient leur offensive dans le Donbass qui regroupe les régions de Lugansk et de Donetsk et que les Ukrainiens peinent à défendre. Les chances de parvenir à un accord sur le programme nucléaire iranien s'amenuisent, a prévenu mercredi le négociateur américain chargé du dossier qui a souligné que les États-Unis étaient prêts à réagir en cas d'absence d'accord. Rob Malley, qui dirige depuis plus d'un an des négociations indirectes avec l'Iran asien, a néanmoins assuré au Congrès que l'administration Biden souhaitait toujours revenir au respect de l'accord de 2015 dénoncé par Donald Trump et qu'elle restait prête à lever les sanctions contre Téhéran en cas d'accord. Le patron de l'OMS a promis mercredi aux pays membres de faire une priorité de la lutte contre les violences sexuelles dans les rangs de son organisation après un scandale impliquant des employés en RDC. Le journal du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Et dans votre actualité économique, nous retrouvons Rosine Munezero pour la Minute Éco.
Le Zimbabwe voit le taux d'inflation bondir à 131,7% en mai, selon le Bureau des statistiques. Les prix de l'huile et du pain ont grimpé suite à l'invasion de l'Ukraine. L'inflation s'est levée à 96,4% en avril. La semaine dernière, le gouvernement a tenté de faire baisser les prix en suspendant les droits d'importation sur les prix comme l'huile, le riz et la farine. L'édition 2021 d'Africa Code Week a vu plus de 1,8 million de jeunes âgés de 8 à 16 ans équipés de compétences d'apprentissage et de codage cruciales pour le 21e siècle à travers 41 000 ateliers organisés sur le continent. Il s'agit d'une augmentation de 23% des jeunes formés par rapport à l'année dernière. Depuis le lancement de cette initiative en 2015, 10 millions de jeunes et d'enseignants ont été formés. Les États-Unis ont décidé de mettre fin à partir de mercredi à une exemption permettant à Moscou de payer ses dettes en dollars. La Russie va rembourser sa dette en roubles, a indiqué le ministère russe des Finances. La dette extérieure de la Russie représente, selon son ministère des Finances, environ 4 500 à 4 700 milliards de roubles, soit quelque 78 à 81 milliards de dollars, soit 20% de la dette publique totale.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports ce soir avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le tirage au sort des éliminatoires du CHAN Championnat d'Afrique des Nations Total Energies Algérie 2022 aura lieu demain jeudi.
Oui, ce sera lors d'une cérémonie qui débutera à 13h heure locale, 11h GMT au Caire en Égypte. Et pour une première dans l'histoire de cette compétition, le tournoi final qui se déroulera en Algérie en janvier et février 2023 regroupera 18 équipes. Le CHAN réunit les joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. Le Maroc est champion en titre depuis la dernière édition qui s'est déroulée en février 2021 au Cameroun.
En football toujours, le sélectionneur du Maroc a dévoilé sa liste de 27 joueurs sans Hakim Ziyech.
Oui, les 27 Lions retenus devront affronter les États-Unis le 1er juin en match amical, puis l'Afrique du Sud le 9 juin et le Libéria le 13 juin à l'occasion des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. La grosse info ici, c'est qu'Hakim Ziyech n'a pas été convoqué.
En première ligue, le gouvernement britannique a donné son feu vert au rachat du club de football de Chelsea, convoité par un consortium mené par un homme d'affaires américain.
Oui, le multimilliardaire Roman Abramovich, qui a fait du club de l'Ouest londonien un acteur majeur de la première ligue et du football européen, peut désormais le céder au groupe mené par l'américain Todd Boehly. Le gouvernement a annoncé ce mercredi avoir approuvé l'offre de 4,25 milliards de livres, 4,97 milliards d'euros du consortium, comme l'avait fait mardi la Première Ligue. Après ce feu vert de Londres, les autorités européennes doivent encore donner leur approbation, mais celle-ci est désormais considérée comme une formalité, selon la BBC.
Changeons de registre pour parler cyclisme, 17e étape du Tour d'Italie.
Oui, une 17e étape remportée en solitaire par le grimpeur colombien Santiago Buitrago de Bahreïn à Lavarone, dans la province de Trentin, dans le nord italien. L'équatorien Richard Carapaz de Ineos a gardé le maillot rose de leader avec une avance inchangée de 3 secondes sur l'Australien Jay Hindley à 4 jours de l'arrivée.
Enfin, en NBA, Dallas met fin à sa série de défaites dans la finale Ouest.
Oui, sauvés des eaux, malgré des fuites provenant du toit de leur salle, les Mavericks, grâce à un gros effort collectif autour de Luka Doncic et une adresse retrouvée à 3 points, ont remporté 119 à 109. Une première victoire contre les Warriors mardi en play-off NBA. Dos au mur, Dallas était tenu de s'imposer pour éviter un coup de balai dans cette finale de conférence Ouest. C'est fait et plutôt bien fait car hormis un sursaut dans le dernier quart-temps, Golden State n'a pas vraiment existé dans ce match numéro 4 pour lequel il avait certes le droit au faux pas.
C'était les sports avec Bagasikoura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakidza, de retour avec vous, place au dossier du jour. Ici aux États-Unis, encore une autre tragédie dans une école dans l'État du Texas. Ce mercredi, les habitants de la ville d'Uvalde, au Texas, sont en deuil au lendemain du massacre de 19 enfants et 2 enseignants dans une école primaire. Une fusillade perpétrée par un jeune de 18 ans, alors qu'une autre tuerie survenue à Buffalo, à New York, n'a pas fini de faire parler. Sur ces fusillades et le débat sur les armes à feu aux États-Unis, Abdelrahman Dia a joint à Saint-Louis, dans le Missouri, l'universitaire Jean-Germain Gros.
Le fond du problème, c'est, disons, l'obsession américaine pour les armes à feu. voilà le fond du problème.
Justement, cette fusillade d'Uvalde au Texas nous rappelle que pour le débat sur les armes à feu, il est toujours difficile de trouver un compromis. Pourquoi ?
Bon, il y a en tout premier lieu le pouvoir, la puissance du lobbying. The National Rifle Association, les politiciens, surtout les républicains, je dois dire, absolument ont peur du pouvoir de lobby du NRA. En fait, ce vendredi, le NRA aura sa réunion annuelle au Texas et le gouverneur du Texas sera l'un des intervenants.
Il y a des activistes qui proposent des choses, en tout cas qu'ils jugent simples, comme des enquêtes sur les antécédents, ce qu'on appelle les background checks. Pourquoi c'est difficile même à ce niveau de trouver un compromis?
Bon, c'est que les lobbies du NRA pensent que même des compromis, disons, modestes, peuvent se transformer en... Ils sont perçus comme des menaces. Donc, ils ne veulent aucun compromis parce que même des compromis les plus modestes peuvent être transformés en compromis considérables. Voilà.
C'est l'émotion aux États-Unis aujourd'hui. Certains vont dire, après quelques jours, ce sera le retour aux positions initiales des uns et des autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que cela change?
Bon, je crois qu'il faudra une mobilisation massive de la part des citoyens américains, surtout de la part de ceux qui veulent un changement, parce que ça ne pourra pas continuer à perpétuité. Donc, ce n'est pas une question de viser Washington DC. Non. On doit commencer par une mobilisation à partir de la base, et utiliser la base comme une source de pression sur les politiciens.
C'était Jean-Germain Gros, professeur à l'Université du Missouri.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Tchad, la grève lancée par la principale syndicale des travailleurs du secteur public paralyse l'administration publique. Les principaux syndicats affiliés à l'UST, tels que le syndicat national du personnel de greffe, le syndicat des agents de l'administration générale du Tchad et le syndicat national des agents des affaires sociales et de la santé, ont observé ce mot d'ordre pour exiger la libération des leaders placés sous mandat de dépôt. Toutefois, un service minimum est assuré dans les hôpitaux comme prévu. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point.
À l'hôpital des districts de Chagua, situé dans le plus grand arrondissement municipal de N'Djamena, le personnel qui assure le service minimum est débordé. Sur les 23 centres de santé qui sont sous la responsabilité de ce district, seuls les centres de santé communautaires et confessionnels travaillent. Dr Bissot Ernest Mahamat, médecin-chef de l'hôpital des districts de Chagua, communément appelé hôpital de l'Union.
Au niveau des centres de santé, nous avons juste demandé au chef de service d'être présent au service, pas pour travailler, mais pour assurer quand même seulement la sécurité des services, mais au niveau de l'hôpital, on est en train de faire le service minimum, surtout on prend en charge les urgences, sinon on est débordé. La santé, c'est trop sensible. Les syndicats se disent de voir aussi l'ampleur des peuples, le gouvernement aussi, de faire de telle sorte que le procédure judiciaire soit respecté. Pour le moment, on assure toujours le service minimum, mais tout dépendra de ce que le syndicat nous dira.
À la Bourse du Travail, quartier général des travailleurs, les grévistes en petits groupes commentent l'actualité et passent des appels téléphoniques pour s'assurer de l'effectivité de la grève dans leurs services respectifs. Un seul mot d'ordre, la libération des leaders incarcérés.
La grève est illimitée jusqu'à la libération totale du secrétaire général et des autres leaders, parce que c'est lui le délégué titulaire. Il doit en principe quitter aujourd'hui pour Genève, pour la conférence internationale du travail, pendant que lui est là en prison.
La situation du pays nous oblige à aller en grève. Si réellement le gouvernement a la bonne volonté de résoudre le problème, qu'il libère simplement les leaders syndicaux et le travail reprend.
Le ministre de la Fonction publique, Bram Mahamat, estime que cette grève est illégale et invite les travailleurs à ne pas suivre ce mot d'ordre.
Gounoum, c'est sa personne, c'est pas l'USC. Et ce ne sont pas non plus tous les travailleurs cadiens. Ils sont assez matures pour faire la part des choses. Le gouvernement n'a pas touché à un seul de leurs intérêts. Si de façon illégale ils vont en grève, ils savent le risque qu'ils encourent.
Pour Mme Demba Karioum, chargée de programme pour les objectifs du développement durable de l'UST, le ministre de la Fonction publique refuse de voir la vérité en face, puisque le secrétaire général de l'UST s'est engagé dans cette lutte au nom de tous les travailleurs.
Le ministre fait allusion au fait que l'arrestation de Gounoum est liée plus à la politique, mais le syndicat et la politique sont intrinsèquement liés. Quand on prend tout simplement le fait que nous voulons demander l'assainissement des finances publiques pour que les gens aient accès à l'eau, à l'électricité, et de meilleures conditions de travail. Ça, ce ne sont pas les affaires politiques qui exécutent cela. Ce n'est pas le politique, mais si le politique ne le fait pas, nous, en tant que travailleurs, nous devons le lui rappeler quelles sont ses missions premières. Nous allons faire la grève jusqu'au bout, parce que nous, nous sommes habitués à se faire couper déjà les salaires. Salaire pour quoi? La façon dont ils l'ont arrêté, ils peuvent aujourd'hui décider par un coup de téléphone de le libérer et qu'il regagne sa famille, et puis le problème est réglé.
Une grève qui perturbe également les cours dans quelques établissements scolaires publics. Pour l'instant, le principal syndicat des enseignants du Tchad n'a pas encore donné sa position. André Godouma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En République démocratique du Congo, des combats sur plusieurs fronts dans la province du Nord Kivu ont provoqué un déplacement continu de personnes. Jusque-là, aucune aide du gouvernement ou des organisations humanitaires n'a été signalée. Pour plus de détails, suivez ce reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Netizaidi.
Ces personnes déplacées qui ont fui les affrontements entre l'armée et le rebelle du M23 ont trouvé refuge ici dans la cour de l'école primaire Kanyaruchi. La plupart d'entre eux sont ici depuis hier, lorsque les affrontements se sont intensifiés à Kibumba et Burumba, les localités d'où proviennent la majorité de déplacés. Depuis leur arrivée, ils n'ont reçu aucune assistance. Certains ont dormi à la belle étoile, comme Manga et sa famille, qui ont tenté en vain de trouver refuge dans cette église, mais personne n'a ouvert les portes. Lui et ses enfants ont alors dormi dehors devant l'église.
Nous sommes ici depuis hier soir. Nous avons trouvé plusieurs personnes déplacées qui campaient ici. Je peux vous montrer ma famille. Ils sont ici, ce sont mes enfants et mes belles-filles. Nous avons tous dormi ici sur le sol. Nous avons rencontré l'un des responsables de cette église. Nous l'avons supplié de nous donner un endroit pour dormir, mais il était catégorique.
Outre le manque d'espace équipé pour accueillir les déplacés, ils ne trouvent pas de nourriture. Certains n'ont pas mangé depuis hier. Clémentine a passé la nuit avec sa famille, le ventre vide. Et pour trouver de la nourriture, elle a été obligée de mendier.
Nous avons déménagé hier à cause de la guerre. Nous sommes arrivés ici et nous n'avons rien trouvé à manger. Nous avons passé la nuit affamés. J'ai demandé aux passants un peu de nourriture. Si je ne pouvais pas le faire, je ne pourrais rien manger avec les membres de ma famille. Chacun va se contenter du peu qu'il trouve pour se mettre sous la dent.
La société civile du territoire de Nyiragongo tire la sonnette d'alarme. Faustin Zabayo, Un des membres de cette société civile demande au gouvernement et aux organisations humanitaires de vite prendre les dispositions nécessaires, sinon on comptera des morts parmi les déplacés.
Mais tel que vous pouvez le constater, jusqu'à présent, les sinistrés, les déplacés restent sans assistance quelconque. Et voilà pourquoi nous lançons un appel vibrant au gouvernement congolais de jouer pleinement son rôle, puisque la protection de cette population, ça dépend du niveau de l'implication du gouvernement central et ses partenaires.
Les affrontements qui ont provoqué des déplacements massifs des populations se déroulent sur fond des regains des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Kigali a accusé lundi l'armée congolaise d'avoir tiré des roquettes sur le Rwanda, blessant plusieurs civils, tandis que le Rwanda, qui les dément, est accusé par les militaires congolais de soutenir la rébellion du M23. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Le continent africain célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'Afrique, African Day, qui célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. Des intellectuels africains réunis ce jour à Dakar au Sénégal réfléchissent sur l'ancienne fédération du Mali, l'occasion de mettre sur la table les perspectives de développement pour le continent africain. Jean-Roger Dion a joint à Dakar Mamadou Mignan Diouf, sociologue et panafricaniste.
Arrive le 25 mai de chaque année, l'Afrique mère, sa diaspora dans les Caraïbes, dans le Pacifique même, dans les États-Unis comme en Occident, les Afro-descendants. Et tout le monde essaie donc de se rappeler de cette journée-là et pour voir quelles leçons on tire de cette première tentative d'organisation État africain dans une dynamique continentale.
Oui, alors quand les fils de l'Afrique se réunissent dans une capitale comme Dakar pour réfléchir sur la Fédération du Mali, est-ce dans l'objectif de relancer les espoirs d'unité?
On a voulu cette année, on a voulu donc prendre comme thématique la Fédération du Mali, leçons et enseignements pour la construction d'un État fédéral africain. Et ça a été donc peut-être de réinterroger, de revisiter le processus par lequel la Fédération du Mali a été mise en place jusqu'à sa mort, sa dissolution, voyant donc le Sénégal et le Mali finalement devenir chacun un État indépendant à part. Pourquoi on a voulu prendre ce prétexte? Parce que nous sommes dans un contexte, dès l'instant que les États balkanisés ne peuvent pas à eux seuls aujourd'hui assurer la sécurité, la paix, l'autosuffisance alimentaire ou la sécurité à leur peuple, n'est-il pas temps de rediscuter, de revisiter toutes les tentatives, disons, fédérales ou confédérales, pour savoir quelles ont été les causes qui ont fait que ni la Fédération du Mali, ni la Sénégambie, ni la Fédération du Cameroun, finalement, qui est restée en état à deux langues, avec toutes les difficultés et les problèmes que vous savez, même la Fédération de l'Éthiopie n'ont pas réussi, toutes ces fédérations n'ont pas réussi à se mettre dans un état stable. Alors que nous continuons, en tant que panafricanistes, à nous dire, nous voulons nous unir. Nous continuons à nous rappeler du slogan de Kwame Nkrumah, l'Afrique doit s'unir.
Sur la route de l'unité se dressent des écueils comme les coups d'État actuellement en Guinée, au Burkina, au Mali, et puis les clivages avec l'ancienne métropole colonisatrice. Est-ce que tout cela n'amène pas à désespérer un peu de l'avenir du continent?
Il ne faut pas désespérer. Il faut plutôt donc savoir évaluer, situer nos erreurs, nos limites, situer nos insuffisances et apprendre des erreurs de nos aînés. Il faut donc évaluer la gouvernance, changer le modèle de gouvernance et voir maintenant comment exploiter toutes nos potentialités, les ressources à la fois minières, économiques, démographiques, humaines et tout ça, et arriver donc pourquoi pas à avoir un mécanisme qui nous permette de dépasser la balkanisation de nos États, parce que les États balkanisés, aucun d'eux ne peut assurer à des populations ni la sécurité, ni la souveraineté, ni la santé, ni le développement durable.
Mamadou Mignan Diouf, sociologue sénégalais et panafricaniste. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Joselle Morissin, Lionel Manila-Gahima et Michel Claire-Joseph. Eric Manila-Kiza a été avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, retrouvez-nous sur votre site voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.